Tiens, écoutez, d'abord, merci beaucoup, Selma Josso, de cette invitation et de cette présentation. Et merci évidemment aux organisatrices, principalement conceptrices, organisatrices de ce colloque, avec un programme extrêmement varié, ça a été dit. Et je voulais juste souligner ce que je trouvais aussi très intéressant, c'était qu'il y avait aussi une grande variété dans les. Comment dire, dans le statut des intervenants, qui fait la place aussi bien donc à des doctorants qu'à des professeurs émérites. Donc, dans un partage général, je trouve ça vraiment super. Voilà. Alors, donc, moi, je vais essayer d'apporter ma petite contribution, ma petite pierre à cet édifice d'une recherche sur le néolibéralisme dans cette période contemporaine, donc, que vous avez appelé donc, le paradigme néolibéral. Alors, je voudrais commencer en disant que il me semble que le plus souvent, lorsqu'on emploie le terme néolibéralisme, c'est pour s'engager dans une analyse de l'époque, de notre époque. En faisant usage de ce terme néolibéralisme, on s'entend implicitement et presque quasi immédiatement sur une forme de constat, voire une forme de critique de la marche du monde. Parler de néolibéralisme, c'est très souvent le dénoncer aujourd'hui. Et je dirais même que du coup, ce terme est très commode. On y recourt souvent pour éviter d'avoir à en dire plus. On s'entend. C'est le néolibéralisme. Ce qui est évidemment exactement l'objet contraire de ce colloque qui nous invite à en dire plus. Alors, cette commodité évidente du terme côtoie aussi, et c'est ce qui fait sa commodité d'ailleurs, une très grande élasticité. Il peut s'employer, et on le trouve employé, quel que soit ce dont on parle. De l'économie, bien sûr, mais de la politique, du droit, de la culture, de l'enseignement, de la santé, de l'action humanitaire même. De la littérature, tout y passe. Tout paraît aujourd'hui analysable au prisme du néolibéralisme, cette nouvelle raison du monde, comme disent donc Dardot et Laval. Alors parler de néolibéralisme à tout bout de champ, ça peut être évidemment considéré comme une facilité de langage, comme une paresse intellectuelle même, mais il me semble que c'est aussi le signe de ce qu'il y a effectivement. Ce que j'appelle une manière de voir, de dire et de décider le monde qui traverse aujourd'hui l'ensemble des espaces sociaux et qui nous rend tous de plus en plus inaptes, il me semble, à fonder intellectuellement et mentalement le constat de la différenciation entre ces différents espaces sociaux. D'où qu'on la regarde, la marche du monde peut être dite néolibérale. Et il me semble d'ailleurs que les intellectuels et les scientifiques ne sont pas du tout les seuls concernés par cette relative inaptitude, à mon avis, à différencier. Tout le monde y est en quelque sorte soumis. Alors, si je dois parler du droit, j'entends ici très simplement et très basiquement le droit comme cet ensemble institutionnel et normatif. Qui est une modalité privilégiée aujourd'hui d'organisation sociale, le droit n'échappe pas, lui non plus, évidemment, à une manière, pardon, repérable, mais difficilement analysable, il me semble, de voir, de dire et de décider le monde, qu'on nomme cette manière de voir néolibérale ou non, de toutes les façons. Il est vrai que lorsque le terme néolibéralisme est créé à la fin des années 30, non pas pour analyser le monde comme on le fait aujourd'hui, mais pour le recomposer, le droit apparaît un élément très important de cette recomposition. C'est une chose connue, donc le terme néolibéralisme émerge avec le fameux colloque Lippmann qui s'est tenu à Paris en 1938. Walter Lippmann, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé The Good Society, plus exactement d'ailleurs, An Inquiry into the Principles of the Good Society, et qui propose de renouveler le libéralisme, est le prétexte donc d'une rencontre organisée à l'initiative du journaliste et philosophe Louis Rougier. Et dans ce qui est dit à ce colloque, et dans les écrits des uns et des autres protagonistes, il y a beaucoup de choses sur le rôle du droit, et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une étude passionnante. Et je vais m'en tenir ici à quelques éléments très rapides pour le moment. Je trouve intéressant de noter par exemple que dans la préface de son ouvrage, The Good Society, Walter Lippmann remercie certes des économistes, et d'ailleurs il remercie aussi bien Hayek que Keynes, c'est intéressant, mais aussi un théoricien des relations internationales, Graham Wallas, et des juristes. Des juristes dont le fameux réaliste Roscoe Pound, et aussi, je note, McEwen, qui est l'auteur d'un très célèbre article qui s'intitule « Government by Law ». Et il fait partie de ceux qui sont remerciés par Lippmann tout au début de son ouvrage. Premier élément. Deuxième élément, plus connu, dans le compte-rendu du colloque Lippmann, notamment dans l'agenda final, on lit « C'est à l'État de déterminer le régime juridique qui sert de cadre au libre développement des activités économiques. » Enfin, dernier élément pioché, dans son ouvrage paru la même année, qui s'appelle « Les mystiques économiques », Louis Rougier propose un ordre juridique tel que la possibilité de la concurrence soit toujours sauvegardée. Donc non seulement le droit n'est pas absent du projet néolibéral, mais il semble y jouer un rôle central. Évidemment, les travaux d'Hayek le montrent à l'envi par la suite. Pour la suite de ce propos, je voudrais aussi évoquer ce qui ressort du choix final du terme néolibéralisme en 1938, et qui résonne à mon avis pour toute chose affectée et analysable sous son prisme. En effet, il faut rappeler qu'étaient proposées beaucoup d'autres expressions. Libéralisme positif, libéralisme renouvelé, libéralisme reconstruit, et même, on voyait, libéralisme de gauche était proposé, ou encore individualisme. Selon l'économiste et journaliste Bertrand Rothet, dans un article qui date de 2015, le néolibéralisme l'emporte car, je le cite, « il demande moins d'implication ». Il demande moins d'implication. Là, donc, où tous les autres termes engageaient quelque chose de tout à fait particulier. Libéralisme renouvelé, reconstruit, de gauche, etc. Néolibéralisme permet d'effacer tout engagement qui pourrait affecter le projet et sa compréhension. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Ça ouvre, à mon avis, d'immenses perspectives parce que ça me semble évoquer ce qui est effectivement advenu en passant par la nomination, c'est-à-dire une manière de dire le monde qui implique le moins possible ce dont il s'agit. Alors en fait, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Je travaille en ce moment sur un ouvrage sur les évolutions du droit, dans lequel je puise l'essentiel de ce que je dis aujourd'hui. Et je constate que la question de la nomination, c'est quelque chose de fondamental. Il s'agit de nommer de telle sorte qu'on en dise le moins possible sur ce qu'on est en train de faire effectivement, voire parfois qu'on dise le contraire par la nomination de ce qu'on est en train de faire. En tout cas, de terme doctrinal et programmatique, le néolibéralisme est devenu un terme d'analyse, mais il a conservé, à mon avis, ce caractère d'en dire le moins possible qui engage ceux qui y recourent. J'irais même jusqu'à dire qu'en dénonçant le néolibéralisme par l'emploi de ce terme, à certains égards, on prolonge la pensée néolibérale le plus souvent. Bon. Car il s'agit bien, je le répète, d'une manière de voir, de dire et de décider qui en dit le moins possible, mais si possible à propos de presque tout. Et l'observation des évolutions du droit va, à mon avis, dans ce même sens. D'où qu'on prenne le droit, d'où qu'on le regarde, on peut être conduit à envisager le spectre du paradigme néolibéral. Qu'on parte des différentes branches du droit, droit privé, droit public, droit civil, droit commercial, droit administratif, droit constitutionnel, etc. Qu'on parte des différentes catégories ou notions de droit. Les contrats, les normes, la famille, les actes juridiques, la peine, ou même encore la notion plus récente d'état d'exception. Je note à cet égard le petit travail, le petit opuscule, on va dire, publié par le juriste brésilien Raphaël Valim, qui s'intitule « L'état d'exception, la forme juridique du néolibéralisme ». Donc, presque tout, aujourd'hui, en droit, semble pouvoir s'analyser comme une manifestation du néolibéralisme. Différents travaux, aujourd'hui, l'illustrent. Le plus souvent, il s'agit de mettre, à raison d'ailleurs, l'accent sur l'insertion partout de la notion de concurrence, par la conversion de tout espace de diffusion, de communication et d'échange en un marché à réguler. Donc en ce sens, tout y passe à travers les transformations du droit. La réussite de ces transformations n'est pas sans raison. De fait, nous sommes tous embarqués dans ces transformations, et je le crois, le plus souvent aussi, avec notre accord et notre soutien. Le tout est de savoir comment ça se produit. Si le néolibéralisme est une manière de voir, de dire et de décider le monde, le droit, en paradigme néolibéral, aurait donc une structure générale, une organisation, une manière commune d'apparaître, quel que soit ce dont il parle, qui y correspond. Et de ce point de vue, il me semble que deux choses caractérisent aujourd'hui le droit dans ses évolutions. Son rapport au langage d'abord, et son rapport à la loi ensuite. Alors son rapport au langage d'abord. Bon, c'est un truisme, mais l'homme ne vit le monde qu'en le parlant. Et son langage est donc déterminant. Le langage n'est jamais l'habit neutre d'une société. Il est une partie de ce qui le constitue. Et ces évolutions ne doivent pas être prises à la légère, pas plus en droit qu'ailleurs. Depuis le début de mes études de droit, j'ai entendu que le droit était un langage. En ce sens, le plus souvent, qu'il produit, et se déploie à travers un langage qui lui est propre. C'est d'ailleurs souvent la cause d'une certaine réticence de la part des non-juristes à aborder le droit. Mais quel langage ? Ce qui me frappe en observant le droit qui évolue, c'est justement le fait qu'il tend aujourd'hui à se lover dans un langage qui ne lui est pas propre. Je vais prendre deux exemples. Avec l'usage du terme de « confiance » et l'usage de termes de risque, qui entretiennent d'ailleurs une relation très étroite. Alors je précise que si mes exemples ici s'appuient principalement sur le droit français, ils sont largement jumeaux des autres droits, notamment américains et anglais, où les termes de trust et de risk s'y sont considérablement développés ces dernières décennies. Alors justement, depuis quelques décennies, on peut constater une pénétration exponentielle du vocabulaire et du registre de la confiance dans la sphère publique, qui est visible à partir du vocabulaire en usage dans les textes de portée juridique et dans le discours des autorités politiques et administratives. Il n'y a qu'à regarder les intitulés des lois et règlements récents, je vais faire un inventaire à la Prévert. Je ne donne pas les dates à chaque fois, mais je pars de 2004. Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Loi tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. Loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. Arrêté relatif au référencement de produits de sécurité ou d'offres de prestataires de services de confiance. Encore décret relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de services de confiance pour les besoins de la sécurité nationale. J'en passe, loi du 26 loi pardon, du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, ou encore la loi en cours d'adoption visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. La confiance semble jouer un rôle de légitimation, de validation de la parole publique. Qui ne voudrait pas de la confiance? Oui, c'est typiquement un terme auquel tout le monde spontanément adhère. Qui ne voudrait pas de la confiance? Nous sommes tous portés à soutenir quelque chose qui relève de la confiance. Ce terme, la parole publique ne fait que le récupérer parce qu'il ne lui appartient pas originellement. Et c'est ça qui est intéressant. Elle n'en avait pas besoin. C'est l'économie de type capitaliste qui, évidemment, n'aurait pas pu se développer sans la confiance accordée ou à accorder, d'ailleurs, à quelque chose qui n'existe pas, peut-être pas ou pas encore. Une banque peut prêter de l'argent qu'elle n'a pas. Des courtiers spéculer sur quelque chose qui n'aura jamais aucune réalité tangible, matérialité, pardon, tangible. Des entreprises peuvent accorder une valeur, se voir accorder une valeur sans aucun rapport avec la réalité de leur activité et des personnes qui y travaillent. Des entreprises nouvelles peuvent même vendre parfois des produits qui n'existent pas encore. Faire confiance, c'est faire crédit. Donc la création à la fois artificielle et mécanique de la valeur à partir du registre de la confiance, on parle de capital confiance, permet le déploiement presque sans limite d'activités, de dispositifs juridiques et d'acteurs d'ailleurs dédiés à ceux-ci. L'appropriation de la confiance par la parole publique à côté de la parole privée n'est donc pas que de pure forme, puisqu'elle en retire un bénéfice comme système de légitimation de son action, une sorte de création de valeur à partir de ce qui souvent n'existe pas. L'histoire du registre de la confiance est en lien avec celle du risque. Ce sont aussi les acteurs privés qui ont le plus tôt compris et initié la logique du risque, destinée à limiter ceux encourus par les structures entrepreneuriales. Le terme risque, qui vient du latin resse carré, resse cum, couper, ce qui coupe, est étymologiquement l'écueil. Le risque donc encouru par une marchandise transportée par bateau. Le développement des échanges commerciaux permis par la navigation a mis l'idée de risque au centre du commerce, qui au fond ne se conçoit que par rapport à une perte de gain. C'est ainsi que, comme la confiance, l'invocation du risque est un élément historique moteur du développement d'une économie capitaliste à laquelle l'État s'est rapidement trouvé lié. Fondamentalement d'essence commerciale, il a envahi aujourd'hui l'espace public, comme il a accompagné les évolutions de la société marchande globalisée. Plus précocement que pour la confiance, le vocabulaire du risque a aussi été l'objet de normes publiques depuis la Première Guerre mondiale. Je vous passe tous les intitulés de textes législatifs et réglementaires qui comprennent aujourd'hui le terme de risque. Et en plus, l'idée de prise en compte du risque est maintenant quasi une obligation de toute activité et surtout de l'activité publique. Ce sont les Anglais d'ailleurs qui ont le premier mis en place des programmes de gestion des risques dans l'élaboration des politiques publiques. Il y a très peu d'années. Le risque est promu, la gestion du risque est promue à tous les niveaux aujourd'hui de l'espace public, mais il est aussi valorisé par des associations, par des organismes et des courants de toute obédience, complètement normalisés dans l'espace social. Comme la confiance, eh bien, qui voudrait ne pas se prémunir des risques encourus par une activité? Je rappelle juste que la politique de gestion des risques a été théorisée par l'un des fondateurs de l'école de Chicago, Frank Knight, qui en 1921 publie Risk, Uncertainty and Profit, qui vise notamment à éclairer les conditions de la concurrence et leur optimisation pour éviter les pertes. Donc le registre langagier du risque, comme celui de la confiance, n'est pas que de pure forme. Il porte avec lui des pratiques, et je n'ai pas pris ces deux exemples au hasard. À la fois, ces termes sont omniprésents dans le vocabulaire contemporain du droit, ils sont issus d'une logique à la fois commerciale et capitaliste, et enfin, à proprement parler, ils font la loi ou plutôt d'ailleurs ils font loi, de telle sorte qu'y recourir suppose une décision presque logique, naturelle, au sens où elle n'a pas besoin de réflexion, elle s'impose à la manière de la loi. Le droit, en paradigme néolibéral, prétend dire la loi plus qu'il ne la ferait. Puisqu'il s'agit de faire régner la confiance, est traquée partout la faillibilité et l'espoir de la combler. Je prends un seul exemple, il y en a des dizaines, celui de l'authenticité. L'authenticité, c'est une notion juridique pluriséculaire qui s'est appuyée longtemps dans des pays comme la France sur des acteurs spécifiques, à l'instar des notaires, des greffiers ou encore des huissiers de justice. Aujourd'hui, pardon, pour favoriser la confiance, le système juridique met en valeur des mécanismes de fiabilité et de certification qui sont développés non plus par ces acteurs séculaires, mais par des machines et des systèmes informatiques, à l'instar de la fameuse blockchain, dont elle est considérée comme porteuse de confiance. Et la législation, notamment européenne, promeut désormais très clairement ce système-là. Par la confiance, alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se produit. C'est que les normes juridiques ici ne déterminent pas ce que les machines doivent faire pour assurer de l'authenticité, mais elles s'alignent sur ce que ces machines font effectivement. L'arrivée de la blockchain dans le paysage technologique a entraîné rapidement que le droit adapte les conditions de l'authentification et de validation des opérations juridiques à ce qui a été dicté par la machine, à sa loi. Alors, au passage, il y a eu une perte importante parce que finalement, ce sur quoi aujourd'hui les législations et notamment le grand règlement européen sur cette question-là mettent l'accent, ce n'est pas la validité juridique de l'opération elle-même, c'est la réalité de l'opération elle-même. C'est-à-dire que ces machines assurent que l'opération existe, a été faite, mais évidemment, elle ne peut pas assurer de sa validité juridique. Mais du coup, cette question-là passe en partie à la trappe, puisque ce qui est mis en avant, c'est la confiance, la fiabilité de l'opération, et devient secondaire, en quelque sorte, son caractère juridique. S'agissant du risque, pour prendre donc un second exemple, qu'il soit technique, environnemental, terroriste, sanitaire, il apparaît de plus en plus comme l'argument juridique suffisant pour la légalité et la légitimité de l'action. C'est dans ce sens que je dis le risque fait loi. Alors, petit exemple qui vous parlera peut-être. C'est très manifeste, par exemple, dans la décision qu'a rendue le Conseil constitutionnel le 9 juillet dernier à propos de la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire à l'époque. Il valide dans cette décision la possibilité donnée aux autorités gouvernementales de fermer des établissements recevant du public et d'interdire les manifestations et les réunions publiques. Sur quelle base? Eh bien, sur la base de l'intention présumée du législateur de remédier, je cite, au risque accru de contamination que présente la fréquentation publique de ces lieux, et sur le risque accru de propagation de l'épidémie du fait de la rencontre ponctuelle d'un nombre important de personnes venant parfois de lieux éloignés. Alors, pourquoi je cite cela? Parce que dans la décision, il n'y a pas d'analyse de la réalité de la situation, mais une acceptation de celle qui est présentée au nom du risque. Il n'y a pas de mise en lien des mesures envisagées avec l'intention affichée par le législateur. Pas d'interrogation sur des mesures non prises qui auraient éventuellement évité une atteinte moins grande aux droits et libertés protégés par la Constitution, à l'instar de la liberté d'aller et venir, d'expression, de manifestation, etc. Et enfin, pas même l'esquisse d'une mise en balance entre la restriction des droits et ceux mis en avant, la protection de la santé, pour la justifier. Donc, dans cette décision, de manière très claire, vraiment il faut aller la lire, hein, parce qu'elle est extraordinaire de ce point de vue, une affirmation autour du risque vaut argument juridique. Le risque fait loi. Tout peut être décidé qui répond. Alors évidemment, dans l'imaginaire acceptable par le plus grand nombre, c'est ça la question, donc qui répond à de bons motifs dans une bonne société. L'exaltation du risque met en lumière la dilution de tous les autres principes au soutien du droit et l'idée consécutive d'un droit de choix et de décision toujours justifié par lui, qui les contient en quelque sorte en lui-même. Qu'il s'agisse donc de confiance ou de risque, et j'aurais pu prendre d'autres exemples, peut-être plus surprenants, comme celui de la transparence ou de la vérité, qui sont aussi deux mantras du droit contemporain, le droit se présente toujours comme se soumettant à leur loi. Pas d'explication supplémentaire, pas de véritable décision, une mécanique seulement, qui a pour effet de masquer les choix initiaux, celui d'appuyer la légitimité de la décision sur la confiance et le risque. Voilà donc l'effet du langage et de sa pratique en paradigme néolibéral, la dissimulation de nos subjectivités sous le prisme des principes et de la mécanique indiscutable de la bonne société. La bonne société, de la confiance, du risque, de la transparence et de la vérité. Car ce qui apparaît subjectif, ça se discute. Et en paradigme néolibéral, il s'agit d'en dire le moins possible, on l'a dit tout à l'heure, de limiter la discussion. Ce qui fait loi ne se discute pas. C'est une condition. La subjectivité est donc très souvent présentée elle-même comme un risque qui exige de la faire disparaître. L'authentification via la technologie dont j'ai parlé tout à l'heure, la technologie blockchain, a été promue et même revendiquée, souvent comme destinée à limiter les effets des décisions prises par les dits anciens et traditionnels officiers publics ministériels. Il s'agit d'éliminer les possibles effets d'une décision humaine, quitte à la masquer. Plus généralement d'ailleurs, le secours de la science disante et des machines dites intelligentes, c'est-à-dire strictement qui n'ont pas besoin d'une intervention humaine pour agir, est présenté comme un progrès. L'idée de l'homme et du juriste augmenté par la machine est positivement connotée. Ainsi s'explique aussi, par exemple, la progression de la barémisation ou de la forfaitisation des peines au nom du risque de la subjectivité des juges. Ce qui me semble, pour terminer, devoir être retenu à ce stade, c'est que par le droit, l'homme se donnait le sentiment de vouloir maîtriser le monde en se donnant des lois. Aujourd'hui, il soumet le droit à ce qu'il feint de croire être des lois qui s'imposent à l'homme qui veut une bonne société. En effet, qui ne serait pas d'accord pour une bonne société? Je vous remercie.